tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil.
Quand de nos prouesses, on claironne les bienfaits, et que de promesses, toujours on se satisfait. Quant à la lumière, on expose nos progrès, et pour mieux se taire, concernant tous leurs méfaits. Du progrès qui nous pétrit, je me sens ragaillardi, de tout ce qui réussit, et je me dis, tout le monde il est beau et le progrès nous sourit. La thématique de cette nouvelle émission, intitulée « Du siècle des Lumières à celui de l'aveuglement », s'articule autour de la lecture presque intégrale d'un numéro de Manière de voir, revue bimestrielle publiée par Le Monde diplomatique. Ce numéro, intitulé « Le progrès en procès », propose une vision large de la notion de progrès, passant en revue divers aspects, positifs ou négatifs, de l'évolution humaine en termes de progrès. Cette émission, relativement longue, propose ainsi des lectures d'articles qui, s'enchaînant en diverses rubriques, offrent des aspects critiques dont chaque article porte une réflexion spécifique. Cette thématique ne fait l'objet d'aucun commentaire de la rédaction et progresse ainsi au fil de la lecture du numéro.
Tout le monde il est beau et le progrès nous sourit.
Le siècle des Lumières envisageait d'orienter le cours de l'évolution humaine dans la direction d'une civilisation digne de ce nom. Pour ce faire, des penseurs de cette époque ont cherché à infléchir la structure de la pensée dominante de l'époque vers une société laïque, émancipée des superstitions jugées obscurantistes de la religion, celle-ci revêtant la fâcheuse tendance à dresser peuple contre peuple en des combats stériles motivés par des divergences de croyances ou de dogmes. D'autre part, les espoirs de cette époque ont été placés principalement dans une conviction, assez proche d'une croyance, à l'égard des vertus projetées dans les cercles de la raison, de la science et de la connaissance. Il fallait, pour s'affranchir de l'emprise de l'obscurantisme, diriger l'humanité vers les lumières d'une connaissance de la vie, dont la révélation ne manquerait pas de réconcilier tous les humains autour d'un seul objectif vertueux, progresser. Cette tension nouvelle des aspirations à un monde meilleur a généré le fait bien des changements d'orientation sociale. La religion, du moins en tant que notion intégrée au registre civique patriote, a effectivement progressivement disparu, cédant la place à une démocratisation des champs scientifiques, politiques et culturels. Ces changements ont engendré une courbe ascensionnelle de la pénétration de ces dimensions dans le tissu social, devenue quasi permanente depuis lors. Évidemment, la transformation ne s'est pas opérée d'un seul coup. Elle fut cependant assez rapide pour qu'en un siècle s'opère un réel changement de la structure sociale dominante. Tout d'abord, la science a effectivement effectué un bond spectaculaire, et plus spécialement dans les domaines techniques. Les deux grandes guerres n'ont d'ailleurs pas été étrangères à cette brusque poussée. Nombre de succès militaires en termes de technologie ont contribué à la naissance de nouveaux développements industriels. Et ceci, par l'essor de la publicité, n'ont pas tardé à se transformer en nouveaux usages sociaux et domestiques. L'invasion automobile dans les années 50-60 est un bel exemple de l'application militaire motorisée de la guerre 14-18 dans la sphère des usages civils. La Révolution verte fut également un exemple de ces déclinaisons du militaire au civil, des gaz de combat cette fois-ci, en direction de la chimie, des engrais et des pesticides. Citons encore la bombe atomique, sans oublier la physique quantique, tous deux ayant ouvert la voie à des progrès en termes d'énergie et d'électronique, dont on peut apprécier déjà, avec un très faible recul pourtant, en quels termes ceux-ci ont permis une amélioration de la qualité de vie du citoyen moderne. Dans le champ de la raison maintenant, si d'appréciables avancées ont été rendues possibles par une démocratisation de l'étude de la vie sous toutes ses formes, retenons que, progressivement, ces avancées se sont de plus en plus réduites à des raisons rationnelles, celles des chiffres, des statistiques, des équations et d'autres modèles de raisonnement conceptuel réputés neutres et objectifs. Et si l'objectif initial avoué a été d'extraire l'intelligence humaine de la passion, suspectée alors des débordements de l'émotion, cet objectif n'a pas tardé à muer en une autre passion, pas moins dévote que celle précédemment englobée dans le champ de la spiritualité, celle de l'intelligence artificielle, incarnée actuellement par le phénomène des algorithmes. Et ce dont on s'aperçoit aujourd'hui, c'est que bon nombre des sciences humaines se sont retrouvées progressivement éclipsées du domaine de l'étude de la raison sous son aspect social, avec un dommage collatéral clairement identifiable désormais, la propension à une appréciation de plus en plus froide et technocrate de l'existence humaine. À tel point d'ailleurs qu'on pourrait aisément parler de passion destructrice de la condition humaine. Mais ce mode d'évaluation n'est pas pour autant neutre et objectif. Il se trouve simplement circonscrit à un seul critère qualitatif, celui du mercantilisme. Ses caractéristiques vénales et égoïstes se déploient désormais dans toutes les couches sociales de l'activité humaine. Cet envahissement a pris des proportions telles qu'on peut oser le qualifier de colonisation de l'imaginaire collectif humain. Ainsi, si le colonialisme, déjà peu critiqué à l'époque des Lumières, n'a pas disparu, il s'est au contraire sournoisement institué en cette forme d'uniformisation de la pensée humaine, désormais réduite au quantifiable d'un productivisme en accélération constante. La spiritualité elle-même se trouve réduite à de simples méthodes d'efficacité de gestion de l'épanouissement et de la réalisation du bien-être, et individuel comme il se doit. Et comme si le bien-être individuel était indépendant des conditions sociales, là aussi, comme il se doit de le penser. En fait, la notion de réussite est devenue synonyme de progrès. Le progrès, synonyme de progression, et la progression est envisagée en tant qu'acharnement à gravir les échelons hiérarchiques. Partout, la réussite évacue la notion du cheminement, de l'apprentissage de la vie. Il ne s'agit plus que de réussite sociale, acquise le plus rapidement possible et à n'importe quel prix. Mais la réussite sociale n'est plus que cette volonté de puissance, l'argent et la notoriété, dont on attend la reconnaissance sociale, que nos comportements usuels ne permettent plus. L'admiration devient le nouveau Graal d'une quête initiatique qui, pourtant et par son exigence de rapidité, néglige totalement la valeur du temps réel nécessaire à l'assimilation de l'initiation, en l'occurrence la patience. Dans notre vision actuelle du progrès, l'accélération est la norme, la vitesse la compétence, le mérite se substitue à la qualité et les relations humaines se trouvent progressivement réduites à la puissance énergétique capable de générer des flux de réseaux sociaux en ligne. C'est à la lumière de ces quelques considérations qu'est introduite la nouvelle thématique de notre émission. Sous l'intitulé « Du siècle des Lumières à celui de l'aveuglement », la notion de progrès sera abordée sous la forme d'une lecture presque intégrale d'un numéro de Manière de voir, bimestriel publié par Le Monde diplomatique, et intitulé « Le progrès en procès ». Cette série d'émissions de billets se fera donc en déroulement de la lecture de ce périodique et sans commentaire, cette fois-ci, de la rédaction, ceci exception faite pour la présente introduction. Ainsi, après « Du pouvoir de l'imagination à l'imagination au pouvoir » et « Des rangs de contestataires au militantisme en ligne », cette nouvelle thématique « Du siècle des Lumières à celui de l'aveuglement » commence avec la lecture de l'éditorial du numéro, texte intitulé « Du futur, faisons table rase », écrit par Evelyne Pieyer.
Tout le monde il est beau et le progrès nous sourit.
À la suite de la lecture et en illustration de la période 1800-1810, vous entendrez de Ludwig van Beethoven le concert pour piano et orchestre numéro 2 en si bémol, opus 19.
Comme le bonheur, le progrès est une idée neuve, notamment en Europe. Car, pour pouvoir imaginer la construction d'un avenir meilleur, il faut ne pas croire à la fatalité. Dans l'Antiquité, Les Grecs, sensibles au pouvoir du destin et à la nécessité pour le mortel de garder sa place, ne semblent guère s'en préoccuper. Ils inventent Prométhée qui vole aux dieux le feu pour le donner aux hommes. Ce geste lui vaudra un châtiment exemplaire. Ils inventent Icare qui rêve de voler et se fabrique des ailes de plumes et de cire. Mais elle se décompose sous le feu du soleil et il se noie dans la mer qu'il survolait. L'un de leurs grands fondateurs de mythes, Hésiode, au 8e siècle avant notre ère, chante le déclin sans fin de l'espèce et en fixe pour longtemps les étapes. Les éphémères que nous sommes sont passés de l'âge d'or, où ils vivaient dans l'innocence sous le regard bienveillant des dieux, à l'âge de fer, le temps de la violence et de l'injustice, marqué par la tension entre le désir de dépasser l'humaine condition et l'aspiration à l'impossible retour à l'harmonie perdue. Les Romains vont pour leur part déplorer sans trêve la disparition des mythiques vertus des premiers âges de leur république, tout en s'occupant du présent. Avec le règne du christianisme en Occident, s'installe une théologie de l'histoire qui coupe court à toute possibilité de penser intervenir sur le futur, car c'est la providence divine qui l'écrit. Dieu conduit les événements et les créatures vers la fin qu'il leur a assignée. Il est le grand ordonnateur de toutes choses. Ce qui advient manifeste son projet, il est seul auteur de l'avenir et seul auteur de ce qui est. Au XVIIe siècle, savants et philosophes, de René Descartes à Galilée, mettent de fait en cause cette conception en cherchant à comprendre et fixer les lois du monde physique. Le cosmos n'est plus porteur de sens par lui-même, il est écrit en langage mathématique, et Descartes peut même proposer à l'homme de se rendre comme maître et possesseur de la nature. Le XVIIIe siècle poursuivra et parachèvera cette démarche en mettant au centre l'homme et ce qui lui paraît le caractériser en propre, la raison. Or, l'usage de la raison permet de transformer les conditions de vie grâce aux sciences et aux techniques et de libérer l'individu comme la société des préjugés et autres héritages que seule légitime l'autorité de la tradition ou du pouvoir. Désormais, on peut inventer le progrès, c'est-à-dire écrire l'avenir, faire l'histoire et, de découvertes savantes en exercice critique, avancer vers le bonheur. En d'autres termes, progrès du savoir et progrès de la pensée sont synonymes d'émancipation des chaînes, tant de l'obscurantisme que de la nature. S'ouvre la possibilité de penser l'amélioration collective, la transformation du monde. L'homme et sa condition sont conçus comme perfectibles. Le siècle suivant va lier de façon quasi automatique le progrès scientifique ou technique et le progrès social et politique, censé de surcroît avancer inéluctablement, spontanément. Deux évidences qui vont créer une ambiguïté fondamentale.
Innovation ou modernité ne sont pas des synonymes de progrès. Le progrès n'a de sens que concrètement émancipateur. Progrès de quoi ? Pour qui ?
Les tenants d'un ordre figé pour l'éternité, d'une nature humaine immuable, caractérisée par ses passions bien plus que par la raison, ont longtemps protesté contre cette idéologie du progrès, en prophétisant le chaos social, l'égarement, la perte des repères. Réactionnaire contre progressiste, l'antagonisme était logique. Or, aujourd'hui, cette hostilité réunit aussi bien, souvent à la faveur de ce qui paraît le simple bon sens, des sensibilités de droite que de gauche. Mieux, elle permet de restaurer comme valeurs humanistes, libératrices, épanouissantes, des valeurs de droite qui en deviendraient ainsi de gauche. Une gauche nouvelle, sans illusion, mais morale et bienveillante. Nouvelle donne ou vieille confusion ? Il est clair que toutes les promesses n'ont pas été tenues. Mais en rester au constat, la quête d'une croissance toujours plus forte, la quête de savoir et de technologie toujours plus audacieux, sans limite, sans fin, s'avérant destructrice pour la planète qu'elle menace de tuer, pour l'humanité qu'elle menace de périmer, c'est oublier que l'idéal de progrès n'a de sens qu'émancipateur. Il n'est pas synonyme de changement, d'innovation, de modernité, qui n'implique pas intrinsèquement des aliénations. Le progrès technique n'est pas forcément social ou embellissement de la vie de tous. Autrefois, l'histoire semblait jouer d'avance. Aujourd'hui, la pensée dominante voudrait nous faire croire qu'elle l'est tout autant, mais que l'avancée inexorable du progrès en marche l'écrirait. Nouveau destin auquel ne pourrait s'opposer en miroir qu'un fantasmatique retour en arrière. Ce n'est pas le progrès qui abîme le vivant, mais le productivisme, l'injonction à des valeurs libérales destinées à faire du citoyen un client, y compris de ses propres appétits. C'est aussi un système de production, son idéologie et un rapport de force qui les sert. Porteurs d'amélioration et de libération collective, les progrès authentiques furent des combats et des conquêtes. Alors, progrès de quoi, pour qui ? Celui qu'impose le capitalisme est un progrès du capitalisme. L'autre, le vrai, n'a de sens que progressiste, c'est-à-dire portant précisément un épanouissement du vivant. Certains peuvent préférer punir Prométhée et Icare et rêver à l'âge d'or qui précéda l'âge de fer.
Thank you.